شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان.
علی زن حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین است.
Donc ça me fait plaisir de venir dans une mosquée, un lieu de culte, une association si j'ai bien compris, pour sensibiliser à l'entrepreneuriat. C'est une première et c'est vrai que c'est anecdotique parce que ce que m'a demandé à Céline, je prononce bien ton prénom cette fois,
presque,
ça fait 3 ans qu'on essaye mais on n'y arrive pas. Pas plus tard que vendredi, je travaillais avec mon assistante sur une problématique, par exemple, qui est d'ailleurs un vrai sujet de recherche, mais je vais passer outre cela bien sûr dans le temps, sur la religion. Et comment l'islam en fait était perçu dans les milieux d'entrepreneurs et autres. Et ce qui est incroyable en termes de découvertes et de résultats qu'on a trouvés sur une longue étude qu'on a menée auprès de plus de 2000 jeunes Tunisiens, on a vu que face à leur anxiété, face à l'avenir, vous savez en Tunisie, il y a beaucoup de problèmes économiques, politiques, sociaux, employabilité, etc. Et on a l'impression que la Tunisie est revenue en fait 20 ans en arrière, alors qu'on était vraiment dans une perspective de pays en voie de développement. Et le constat qu'on avait fait, c'est suivant, et je pense que c'est un constat mondial, c'est que l'ensemble des jeunes sont anxieux face à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Est-ce qu'ils vont trouver leur premier emploi en CDI? Éventuellement, est-ce qu'ils vont créer leur propre emploi? Et ça passe par l'entrepreneuriat. Et du coup, pour faire très rapidement et fermer cette parenthèse, on a découvert au final que grâce à l'islam, en tout cas l'islam et la religion en tant que telle, jouaient le rôle d'accélérateur à l'entrepreneuriat. Et ça me fait plaisir de dire ça, parce que effectivement, pour faire le lien avec le lieu, c'est un lieu qui m'inspire, et c'est un lieu pour moi qui amène une certaine, je dirais... Je suis paisible et ça me permet d'avancer dans ma réflexion. Et je pense que tous les entrepreneurs ont besoin de cette paisibilité, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Vous savez, entreprendre, c'est avant tout un état d'esprit. Pour moi, et je vais être très factuel, on l'a ou on ne l'a pas. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre? Je pense que non. On ne peut pas apprendre à entreprendre, mais plutôt on a ce gène peut-être qui est latent et qui a besoin d'être exprimé. Il est au fond de nous et on a besoin en fait de le stimuler pour aller vers la création d'entreprise. Donc je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler comment en fait on sort du cadre usuel. Vous savez, tout le monde est dans le même schéma, je dirais, de réflexion. On est tous des individus rationnels, dotés d'une rationalité plutôt limitée, parce qu'effectivement on est soumis à des émotions et autres qui font que ça altère notre jugement. Et donc tout le monde est dans la même box en fait, dans la même boîte noire, si je peux me permettre de dire. Ça veut dire que tout le monde raisonne de la même manière. Si je prends un exemple simple, de vous tous qui êtes ici, ça doit être le cas de 80% peut-être d'entre vous, c'est naissance, éducation, donc maternelle, lycée, collège, peut-être fac, premier emploi, recherche du CDI, l'appartement, madame qui va avec, les enfants, petits-enfants, et ensuite on retourne vers le créateur. C'est le schéma classique de tout le monde. Lorsque vous êtes à la fac, par exemple, les étudiants sont très tributaires des slides. Ils sont obligés de suivre avec les slides, tout le temps. Si vous enlevez les slides, ils sont perdus. Eh bien, tout le monde a développé ce qu'on appelle des routines individuelles, c'est-à-dire des habitudes. On a tous fonctionné de la même manière. Et entreprendre, ça veut dire ne pas fonctionner de la même manière que tout le monde. Ça veut dire sortir du cadre usuel. Ça veut dire « thinking out of the box », ça veut dire « en dehors de la boîte noire », dans laquelle tout le monde s'insère, grosso modo. Et pour ça, il faut avoir en fait, ce qu'on appelle une certaine culture de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, ça peut être un entrepreneuriat qui est voulu, ou éventuellement un entrepreneuriat qui est plutôt subi. Quand c'est voulu, ça veut dire, par exemple, comme c'est le cas d'Asmine, c'est tout simplement, il va vers l'entrepreneuriat, il a envie de le créer. Il n'a pas de contraintes d'emploi, il n'a pas de contraintes financières, économiques, sociales et autres. Par contre, quelqu'un qui subit l'entrepreneuriat, c'est différent. Ça veut dire qu'il crée par nécessité. Ça veut dire qu'il va créer son propre emploi. Je prends un exemple, une personne qui est en chômage longue durée va être amenée à effectivement créer son emploi en passant par l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi, par exemple, un senior. Vous savez, la plupart des seniors arrivés, je ne sais pas si vous le savez, en France, c'est 45 ans senior. Hein. Donc, je pense qu'on a un grand public de seniors ici, moi compris. 45 ans, quand vous quittez votre emploi, ou on vous demande de quitter votre emploi, c'est très, très, très compliqué, je parle en France, de retrouver un emploi. Pourquoi ? Parce que généralement, un senior, c'est beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'expérience, et donc forcément, qui dit compétence, expérience égale compétence, égale, bah, tout simplement, un salaire important. Donc les entreprises, en fait, partent du constat suivant. Au lieu de rémunérer, par exemple, un senior qui a 50 ans et qui a une expérience de 20 ans ou de 25 ans, je dirais, dans le champ de compétences en question, au lieu de payer 70 000, 80 000, 100 000 euros, bah, je vais recruter, en fait, deux petits jeunes qui sortent de business school, comme Asnif, à qui je vais donner, bah, par exemple, 30 000 euros brut. Il va être content, je suis content, je peux en embaucher deux et je fais une économie de 40 000. C'est le schéma classique et c'est pour ça que maintenant, la plupart des entreprises sont dans cette dynamique-là. Indépendamment de ça, elles sont aussi dans une dynamique de réactualisation de leur potentiel et de leur capital social, compétences, etc. etc. Donc c'est important pour eux de miser sur les jeunes plutôt que sur les seniors. Et bien les seniors, ben, quand on a 50 ans, 55 ans, 60 ans, et il nous reste 5-6 ans à la retraite et qu'on ne trouve pas d'emploi, qu'on a une famille à nourrir, des enfants à charge, ben là on est plutôt dans une dynamique d'entrepreneuriat par nécessité. Les deux schémas, en fait, se valent. Et on est toujours dans cet acte de création d'entreprise, création d'emploi, mise en place d'un business model, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, ce qu'on appelle modèle économique en français. Et donc, instaurer une culture de l'entrepreneuriat, c'est aussi bah, tout simplement prendre des risques. Il faut être dans une démarche, on va dire, de prise de risque assez importante. Quand vous misez, vous mettez votre propre argent. Quand vous mettez votre propre temps, parce que le temps aussi c'est de l'argent, quand vous mettez bah, en fait, l'investissement personnel, vous mettez à contribution votre famille, vos amis, vos collègues, bah, il y a un investissement. Et cet investissement, il est risqué parce qu'on ne sait jamais si ça va réussir ou pas. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'entrepreneuriat. On n'est jamais sûr de réussir. Si tout le monde était sûr de réussir, on aurait bah, peut-être dans cette salle déjà une centaine de patrons de Google, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la réalité. La réalité dit que tout simplement, ben, il y a des personnes qui sont averses au risque et des personnes qui ne le sont pas. Donc il y a des personnes qui iront beaucoup plus facilement à la création d'entreprises et d'autres beaucoup moins. Lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, au fait, vous êtes toujours en mode projet. Ça veut dire que vous allez gérer des individus. Vous savez, quand vous êtes dans l'entreprise, vous travaillez avec des personnes. Alors tout dépend bien sûr du cadre culturel. Lorsqu'on est dans les pays... donc un peu nord-africain, Afrique centrale, subsaharienne, Inde, Moyen-Orient, etc., on est plutôt dans le cognitif, le sentimental, l'émotion. Donc forcément, les personnes avec qui on travaille, on a envie que ça se passe bien. On a envie qu'ils soient proches. Moi, le premier, en tout cas, ou la première personne que j'embaucherai, ça sera mon cousin, bien évidemment. Ça sera mon meilleur ami. Ça sera les personnes de mon premier cercle. Alors que lorsqu'on est dans une culture un peu plus occidentale, c'est complètement différent. Et c'est très culturel. Et ce qui fait que, ben, on a tendance à vous dire la chose suivante, et puisqu'on est en France, vous allez travailler avec des personnes, mais à des personnes pour la plupart du temps, que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas d'affinité avec ces personnes-là. Encore pire, c'est des personnes peut-être qui sont fourbes, je parle en général. Eh bien, vous devez travailler avec ces personnes-là. Et lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à travailler avec des personnes de différentes cultures, de différentes formations, de différents niveaux socioculturels et aussi de différentes, je dirais, pour choquer personne, des personnes qui sont plus ou moins sur la même longueur d'onde que vous. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est manager. Manager des individus, des hommes, des femmes. Essayer de créer de la valeur économique et sociale. Vous savez, la meilleure chose qui puisse vous arriver, le meilleur sentiment que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous créez votre entreprise. Et pour aller plus loin, c'est même pas ça. c'est votre premier contrat CDI que vous allez faire signer à quelqu'un. Ce sentiment de réussite personnelle, professionnelle, vous commencez à faire vivre une famille derrière, une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième, une centième. C'est extraordinaire. C'est le bonheur des entrepreneurs. Le bonheur des entrepreneurs, c'est ça. La plupart des entrepreneurs, ou entrepreneurs avec un grand E à la fin, ne créent pas fondamentalement pour de l'argent, pour des questions pécuniaires. Elles créent parce que tout simplement, elles ont envie de faire avancer les choses. Elles ont envie de changer les choses. Elles ont envie de créer des nouveaux besoins. Elles ont envie d'aider leur conjoint, leur futur, etc. Tout ça, ça rentre dans la dynamique d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est un métier, et tout simplement, qui peut être, je dirais, qualifié de social avant. On y va, donc. Pour moi, cette séance qui est un peu, je dirais, une séance de sensibilisation, c'est de vous expliquer dans un premier temps comment se met en place le phénomène entrepreneurial, même si j'ai commencé à en parler, identifier en fait ce qui motive les entrepreneurs réellement et ce qui les amène à passer le pas. Vous savez, ce qui est le plus dur en entrepreneuriat, c'est de passer le pas. C'est de se dire, j'y vais. Et la première chose à faire, ben, c'est commencer à écrire. J'y reviendrai. Ensuite, quels sont les éléments constitutifs d'un business plan très rapidement, de business model, pour vous donner un peu les premiers, je dirais, outils pour pouvoir effectivement avancer dans votre démarche entrepreneuriale. Alors, je vais vous synthétiser tout ça et je laisse la présentation à Céline qui pourra éventuellement vous la donner. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de contextes dans lesquels, en fait, l'entrepreneur va évoluer. Des pays, des régions, des quartiers, des endroits. Et c'est à vous, en fait, de faire de cet endroit-là le plus bel endroit sur Terre. Je m'explique. En mettant en place un projet, vous êtes capable de faire vivre énormément de personnes. Vous êtes capable de créer un dynamisme territorial. Vous êtes capable aussi de vendre des produits et des services. Parce que le plus important aussi, lorsqu'on est entrepreneur, parce que je vous parle de tout ce qui est à côté, c'est aussi l'opportunité d'affaires. C'est quoi l'opportunité d'affaires? C'est quoi le business en tant que tel? C'est quoi le cœur de business en tant que tel? Comment on qualifie une opportunité d'affaires? À partir de quel moment on parle d'opportunité d'affaires? Ben, c'est simple. Toutes les personnes qui sont là ont des idées. Ont plein d'idées. Énormément d'idées. Il y en a qui y croient peut-être, au travers d'une idée, ils vont devenir le futur Bill Gates, le futur Mark Zuckerberg. Peu importe. Mais le plus important, c'est de confronter ces idées à un marché. C'est de commencer à rédiger. J'ai toujours ce tic d'avoir un stylo dans la main parce que je gribouille tout le temps. J'ai toujours un bout de papier. Quand je dors à côté de moi, j'ai toujours un petit carnet. Des fois, ma femme, elle me prend pour un fou. 3h du matin. Et ça m'apporte énormément. Pourquoi? Parce que je pense que les idées, lorsqu'elles restent dans un cerveau, dans une tête, dans le cognitif, et que ça n'avance pas, ça ne sert à rien. On peut passer toute sa vie à avoir des idées, sans pour autant passer à la réalisation effective. Donc, première étape, c'est commencer à gribouiller sur du papier. Commencer à écrire n'importe quoi. Je veux ouvrir un restaurant halal, spécialité hindoue, machin. Je veux ouvrir, il faut que ça soit du haut de gamme, ça s'adresse à du CSP++, et ainsi de suite. Je commence à gribouiller mon logo, mon nom, le nom de mon entreprise. Je sais comment je vais créer de la valeur économique, comment je vais vendre des plats. Est-ce qu'éventuellement je peux faire venir, par exemple, des objets d'art de l'Inde que je veux vendre dans mon resto, et ainsi de suite. Je gribouille. J'essaie de me projeter, en fait. Et se projeter, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que faisable. Toutes les personnes que vous allez rencontrer ici ou ailleurs, elles vous diront quoi? C'est que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est difficile, ça désocialise. Oui, ça désocialise l'entrepreneuriat. Quand vous êtes dans votre projet, que vous êtes focus dedans, vous perdez un peu pied, vous éloignez de vos amis, de votre famille. Et c'est important, en fait, d'avoir ce lien tout le temps. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le lien et le support de la famille, des amis, des personnes les plus importantes pour vous lorsque vous avancez dans un projet de création d'entreprise. Et pour revenir sur cette notion d'opportunité d'affaires, une fois que vous confrontez votre idée à un marché et que vous voyez en fait qu'il y a un besoin qui émane de ce marché-là. Quand vous sentez que en fait, vous détenez quelque chose qui peut trouver un public, un client potentiel, là, ça veut dire que vous avez une idée et donc j'avance, j'ai une opportunité d'affaires à saisir. Vous savez, en matière de vigilance entrepreneuriale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou d'alertness en anglais, ça veut dire que c'est votre capacité à détecter ces idées et ces opportunités dans l'environnement qui vous entoure. Je vous donne deux anecdotes. La dernière, c'est la mienne, et elle date de samedi. Et je me lance officiellement dans un parcours de création d'entreprise. C'est un ami, en fait, qui est enseignant comme moi et qui aime beaucoup lire. Et vous savez, il y a des endroits pour lire un peu divers et variés. Et en fait, lui, il était dans un café, il avait son petit magazine, il a acheté un magazine sur ses vies. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Et en fait, il y a un article qui disait, ok, ben les algues, en fait, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de valeur, etc. Il y a des nouveaux traitements qui permettent de développer des produits de beauté, etc. etc. Tunisien. La première réflexion qu'il a eue, c'est simple. Il a une lecture globale de l'environnement. C'est un fils d'entrepreneur, petit-fils d'un entrepreneur. Vous savez, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un gène qui se transmet de père en fils, de famille en famille, etc. etc. Votre oncle est entrepreneur, vous serez entrepreneur. Votre père est entrepreneur, vous serez entrepreneur. Votre maman est entrepreneur, votre grand-mère était entrepreneur, même dans du tacite, mais vous serez entrepreneur. Donc, ce jeune homme, il a réfléchi, la première chose qu'il a eue en tête, c'est simple, les plages tunisiennes qui sont dégueulasses, parce que tout simplement, il y a plein d'algues sur toutes les plages, et il n'y a personne qui les nettoie. Vous savez ce qu'il fait en 48 heures ? Recherche sur Internet, il trouve une entreprise en Espagne, il va en Espagne, il commande des machines pour récupérer les algues, en même temps, il s'est associé avec 2-3 investisseurs, et c'est là où c'est important d'avoir à disposition des personnes aussi qui ont de l'argent, hein, malheureusement. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. Pour moi, ce qui est central dans un projet de création d'entreprise, c'est vrai que c'est les individus qui composent l'équipe, c'est vrai que c'est l'opportunité d'affaires, mais c'est aussi l'argent qu'il y a derrière. Ça va beaucoup plus vite quand on a de l'argent. Je suis désolé. Et donc, tac, 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 il s'est associé avec les personnes, ils ont commencé à réfléchir, ils ont choisi une zone qui était dans le sud tunisien, où en fait, il y avait beaucoup de possibilités fiscales, et aussi parce que tout simplement, il y a des problèmes d'employabilité, donc c'était beaucoup plus simple de trouver des salariés. Ils ont installé l'usine, ils ont ramené les machines, ils ont commencé à récupérer en fait les algues, ils ont commencé vers l'île de Djerba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu sur la rive gauche, dans le sud-est, et petit à petit, ils ont développé des petites antennes sur tout le littoral. Et en fait, ensuite, ils ont développé un parc de transport qui ramenait toutes les algues vers l'usine. Ensuite, ils ont ouvert une deuxième antenne près de Tunis, dans la capitale. Et en fait, ils vendent leurs produits à L'Oréal, à Chanel, à Dior. Il y a plein d'histoires comme ça que je peux vous raconter, plein d'histoires. Des jeunes de 19 ans, 18 ans. Ils regardent ce qu'ils aiment, ils aiment les éclairs. Vous connaissez les éclairs au chocolat ? En fait, ça l'ennuyait en fait, de manger que les mêmes éclairs au chocolat ou au café. Voilà, merci. Donc il y a des amateurs. Et il s'est dit, non, moi je vais... Il n'a aucune connaissance de la cuisine, ni de la pâtisserie, ni quoi que ce soit. Et là, en fait, il se dit, moi je vais créer des éclairs de tous les... Encore mieux, je vais créer des éclairs salés, ce qui n'existe pas. C'est simple, il a ouvert sa première boutique, deuxième, troisième, il avait 19 ans à l'époque, 19 ans. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle, je pense que la plupart d'entre vous peut-être le savent, et c'est simple d'aller sur Google, vous tapez l'atelier des chefs. Il y a un grand chef qui est passé sur un psy, je crois, qui lui a piqué son idée d'éclair et qui a développé l'atelier de l'éclair. C'est, il a pompé l'idée du jeune homme, oui. Et j'ai aucun problème à le dire. Des projets comme ça, il y en a un paquet. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la plupart des personnes vers qui je m'oriente, elles aient les pieds sur terre. Parce qu'être un entrepreneur, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Et être un entrepreneur aussi, c'est être très réaliste, pragmatique. Mais avec une nuance, effectivement, de rêve.